Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioalliance.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme Votre santé un trésor. Nous recevons aujourd'hui avec un immense plaisir monsieur le pasteur Michel Jasse, que tout le monde connaît à Nîmes. Bonjour à toi, monsieur le pasteur.
Bonjour. Heureux de faire cette émission avec vous.
Alors Bernard Durand des établissements Durand Voyagistes à l'Est m'a demandé d'accompagner un voyage en pays Qatar du 21 au 23 juin 2024 comme animateur culturel. Nous avons la grande chance à Nîmes d'avoir le pasteur Michel Jasse qui est un spécialiste reconnu du qatarisme. Le qatarisme est l'appellation contemporaine d'un mouvement ou d'un ensemble de mouvements religieux chrétiens médiéval européen en dissidence de l'Église catholique romaine qui s'est particulièrement répandue dans le midi de la France au Moyen-Âge. Le terme Qatar est repris des écrits de Saint-Augustin lui-même par le moine Ecbert de Schoner au XIIe siècle pour désigner les hérétiques. Il a été popularisé en français par l'occitanisme des années de 1960.
Oui.
Michel Jasse avance par ses travaux d'érudit, et c'est un grand érudit, un historien, que le protestantisme viendrait du mouvement cathare. Peux-tu nous en dire, nous rappeler ce que sont les cathares et nous en dire plus sur le lien entre cathare et protestants ?
Les protestants. Bon, en fait, oui, alors on pourrait dire cathare entre guillemets. Actuellement, il y a une exposition, une grande exposition à Toulouse sur ce mouvement et sur la croisade des Albigeois. Et ces historiens se font un luxe de dire cathare entre guillemets, parce que c'est vrai que ce n'était pas le premier nom qui était employé pour désigner les hérétiques en languedoc. Enfin, on pourrait aussi dire en languedoc entre guillemets, parce qu'à cette époque, au Moyen-Âge, on n'appelait pas cette région le languedoc. Ça avait été la Septimanie, mais c'était le comté de Toulouse. En fait, les cathares, alors on les appelle cathares parce qu'en fait, je garde l'appellation cathare parce qu'en fait, c'est l'Église catholique a désigné ces hérétiques, les albigeois, la religion des bons hommes et des bonnes dames, comme des cathares, vous l'avez dit, à partir de la grille de lecture patristique de Saint-Augustin, etc., comme dualistes, ça voulait dire manichéens, cathares, c'était synonyme. Donc les cathares, donc c'est les hérétiques qui ont été accusés d'être manichéens, dualistes, étaient des croyants, des mouvements évangéliques, de prière, de lecture de la Bible, mais avec une grille de lecture qui nous rappelle Origène, le premier interprète des évangiles. Voilà, alors qu'est-ce qu'ils étaient ? Il y a deux interprétations extrêmes. Il y a certains qui disent on est passé de secte en secte, depuis l'époque des manichéens ou des martionnites, puis après il y a eu les policiers en Arménie, et puis en Bulgarie, et puis de là, on est passé aux Bogomiles, et puis des Bogomiles aux Bosniaques, des Bosniaques, des Qatars italiens, et puis après les Qatars italiens, on serait venu. Mais en fait, ça ne marche pas très très bien, cette filiation hérétique. Il y a une autre possibilité, ces historiens les plus prudents ou les plus déconstructionnistes actuellement, c'est de dire, c'est-à-dire qu'ils ont été accusés de tous les maux parce qu'il y avait une sorte de prise de pouvoir du Nord, des Francs et du catholicisme contre le Midi qui était plus tolérant, plus divers, etc. Et on les a désignés, ces gens, c'est les consuls, les gens du Midi, comme des hérétiques, et puis après, il y a eu la croisade, et il y a eu l'Inquisition, et en fait, là, donc, on les a désignés comme dualistes, alors donc, ils se seraient compris, ce qui ne me semble pas très crédible, mais après la persécution, ils auraient accepté le terme hérétique d'avoir été dualiste, cathare, etc. Moi, il me semble que ce sont plutôt des moines, et alors j'ai participé à des colloques, etc., ouais, avec des personnes qui ont travaillé l'Orient et le milieu byzantin, des moines venus de Bulgarie, d'ailleurs, bon, oui, dans la chanson de la croisade, on dit que ce sont des bougres, donc il y a une dissidence chrétienne qui serait venue comme d'une mission venue de Bulgarie, et en fait, la position des byzantins, et puis même des catholiques anciens, c'était quand même de suivre l'orientation d'Origène, très, très symbolique.
Alors, tu as évoqué le fait d'évangile. Alors, à ma connaissance, mais elle est réduite par rapport à la tienne, même insignifiante, les cathares se référaient à l'évangile de Jean. D'ailleurs, les parfaits avaient sur eux l'évangile de Jean. Mais est-ce qu'ils se référaient aux quatre évangiles de la grande, de ce qu'on appelle oui. la grande église. C'est-à-dire les quatre évangiles, il y en a bien d'autres, mais les quatre évangiles que la grande église, oui. avant le schisme, considérait comme les textes
oui.
saints.
Oui, oui. Les cathares ne lisaient pas les apocryphes qu'on a découverts, qui nous permettent de comprendre le gnosticisme du IVe siècle. Ils ne connaissaient pas ces textes. Ils avaient la même Bible que la Bible des catholiques.
Donc, ils s'appuyaient sur les quatre évangiles.
Sur les quatre évangiles, les épîtres de Paul et l'Ancien D'accord. Testament. Mais le, donc, l'évangile de Jean, c'est une... c'était pour la liturgie du consolament, et ils utilisaient l'évangile de Jean pour l'imposition des mains avec le
voilà,
ce texte.
C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le consolament. oui. okay. Mais il faut présenter les cathares quand même. Alors à ta connaissance, existe-t-il encore des groupes de cathares qui pratiquent cette religion? Parce qu'il pourrait très bien y avoir des gens qui pratiquent encore cette religion.
Oui, alors donc là, c'était un peu l'opposition entre ces deux personnes qui ont réactivé l'intérêt pour le catharisme. Au début du XXe siècle, Déodat Rocher, qui a créé la Société du Souvenir Cathare, et celui qui a construit la stèle,
ouais,
qui
la est fameuse stèle,
en,
ouais.
en bas de Montségur. Et puis René Nelly, le philosophe, ouais. l'occitaniste.
Il faut lire, il faut lire.
Voilà. Et alors Déodat Rocher avait tendance à croire que peut-être le catharisme s'était transmis dans des sectes un peu obscures, inconnues, mais qui se seraient transmis. C'était sa grille de lecture, c'était un peu la franc-maçonnerie. Il était franc-maçon, et puis il a créé l'anthroposophie, donc il était ouvert à ce type de...
Mais à ta connaissance, il n'y a pas de
non.
pratique. Hein.
Alors, je relativise un peu. Donc, les historiens disent non, le catharisme a été oublié. C'est la réforme protestante qui a réactivé la mémoire cathare. Mais après, donc, ça a été un peu oublié. Mais alors, aujourd'hui, il y a eu l'ancien maire qui est mort assez jeune de Roquefixade en Ariège, Yves Maris, qui a voulu, il a écrit un livre, c'est « Résurgence du catharisme », et il a voulu recréer le catharisme à partir de cette expression, au bout de 700 ans, le laurier reverdira, etc. Et alors, il a un disciple que je connais bien, Éric Delmas, qui se prétend un nouveau bonhomme cathare. Il vit à Carcassonne. C'est quelqu'un de sympathique, mais je ne crois pas trop à son mouvement.
Très bien. Alors, on a beaucoup évoqué un trésor aussi qui serait parti de Montségur lors du siège par les Français. Qu'en est-il à ton avis ?
Non, alors en fait, alors c'est un, je, oui, il y avait un trésor, il y avait de l'argent de l'église dissidente, l'église des bons hommes et des bonnes dames, et quand les gens savaient que Monseigneur allait tomber, eh bien ils sont allés mettre cet argent à Toulouse, dans la banque des Usalguiers, on sait très bien, et c'était pour... Mais enfin, les cathares avaient très peu d'argent dans leur banque, parce que les bons hommes travaillaient, donc ils vivaient de leurs mains. Mais alors, de dire, c'est peut-être le Graal, il y a toutes sortes de légendes, c'est pas vrai. Et puis de dire que ça serait allé à Rennes-le-Château avec l'abbé Saunière, non, c'est pas vrai, l'abbé Saunière, il a fait de trafic de messes, c'est pour ça qu'il s'est enrichi. Alors, ça n'a rien à voir avec le trésor cathare.
Dans le voyage qui est prévu, on doit passer à Rennes-le-Château. Oui, il faut l'interpréter d'une manière littéraire, c'est de la littérature.
Oui, et puis c'est quand même assez sympathique.
Ah oui, c'est
de
sympathique,
voir,
non, mais c'est très bien, et puis ça nous fait rêver. Alors, peux-tu nous introduire sur l'importance de l'évangile de Jean pour les cathares?
Alors, c'est un peu comme aujourd'hui les francs-maçons, dans l'initiation des milieux francs-maçons, pas dans le Grand Orient qui est devenu la branche rationaliste et libre penseur plutôt athée, mais dans les courants initiatiques dans la franc-maçonnerie, il y a une importance pour l'évangile de Jean. Alors ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé au 19e siècle du johannisme, etc. Bon, alors les cathares étaient un peu pareils. Ils étaient très intéressés par la théologie johannique, évangile et épître de Jean, et puis l'apôtre Paul aussi. Mais enfin, pour la liturgie du consolament, il posait sur la tête du croyant un évangile de Jean, mais c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas les Bibles, il n'y avait pas l'imprimerie. Donc, il y avait les gens avaient un volume avec un manuscrit, l'évangile de Jean, puis un autre avait un manuscrit avec les épîtres d'Apôtre, ou alors le prophète Jérémie, ou les psaumes, etc. Mais là, donc, ils prenaient en priorité l'évangile de Jean et ils imposaient les mains sans toucher les évangiles. C'est-à-dire que pour eux, il y avait aussi... il fallait un peu de recul, un espace. On ne touchait pas au moment d'imposition des mains, mais on faisait le geste avec l'évangile de Jean les mains du bonhomme et qui donnait finalement le Saint-Esprit à partir du monde invisible.
Si tu me le permets, comme si la parole influençait elle-même l'Esprit-Saint.
Tout à fait. Mais par contre, quand, devant l'Inquisition, quand les croyants ou les parfaits cathares citaient des textes de l'Évangile, en priorité, ils citaient, alors vous allez me dire, Jean, Matthieu.
Matthieu.
Et pourquoi ? C'est parce qu'ils apprenaient par cœur les textes. Et quand on apprend par cœur, eh bien on connaît un peu plus le début que la fin. C'est la seule raison.
Une image que j'ai du parfait cathare, il y a deux sortes de cathares. Il y a les gens du peuple, tout venant, et puis le clergé, si on peut dire, qui sont parfaits, qui ont le consolamentum en étant vivant, etc., en étant actif, eh bien, partir marcher, souvent à deux, avec un évangile de Jean dans un rouleau de cuir.
Non, mais ça pouvait être aussi avec d'autres manuscrits.
Ça pouvait être d'autres manuscrits.
C'est-à-dire qu'on a l'exemple de ces bons hommes qui allaient près de Montaillou et puis ils disaient à des paysans « Rendez-nous l'évangile de Jean, on vous donne l'évangile de Matthieu ou on vous donne... »
Oui, mais cette image de deux hommes qui marchent...
Ah oui.
Je trouve que c'est très poétique et très, très parlant.
Pour les Vaudois, c'était pareil à l'époque. Ouais. Et les franciscains, ça a été pareil.
Oui, les franciscains aussi, ils faisaient pareil. Tu es très actif sur les réseaux sociaux avec un groupe, Amis qui aiment Qatar et protestants, de plus de 646 membres. Mes chiffres sont bons.
Oui. 7500 followers.
Je suis très, très modeste, excusez-moi. Quels étaient les rites des Qatars, à part le consolamentum? Est-ce qu'il y avait d'autres rites?
Oui, alors, ce sont des rites, finalement, aussi de politesse, de salut, et puis le baiser fraternel. Donc, il y avait des moments les croyants faisaient des salutations. Alors, on ne sait pas exactement si c'est des salutations médiévales, occitanes, finalement, romaines, ou alors si c'est vraiment liturgique. La frontière entre le sacrement et puis la politesse est un peu difficile à voir.
D'accord. À présent, je vous propose une petite pause musicale avec Medieval Music Instrumental King.
Thank you.
Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir monsieur le pasteur Michel Jasse qui nous parle des cathares, avec les réflexions sur la fin de vie en France et l'euthanasie actuelle. Il m'a paru opportun d'évoquer l'histoire d'un rite de fin de vie médiéval. Il s'agit du principal rite cathare, le consolamentum, ou consolamen en occitan, qui est la pratique rituelle majeure du catharisme que l'on connaît comme majeur. Peux-tu nous en parler plus précisément ?
Alors en fait, le consolament, c'était aussi à la fois le baptême chrétien pour eux, mais qui se faisait sans usage d'eau. Alors, c'est assez curieux, ça peut pousser une réflexion de savoir d'où vient leur abstention d'eau matérielle pour le baptême. Alors c'est le baptême chrétien et aussi c'est l'entrée dans les ordres. C'est-à-dire que si on considère que l'ordre cathare c'est une sorte de monachisme, eh bien on devenait, hérétique parfait pour les inquisiteurs, c'est-à-dire on devenait bonhomme ou bonne dame et on recevait ce qu'on casse à la main. Alors il y en avait beaucoup de croyants en Occitanie qui attendaient la dernière minute.
comme l'empereur Constantin qui a été baptisé sur son lit de mort.
Il voulait bien être chrétien, mais il disait, mais bon, veulent profiter des plaisirs de la chair un peu avant, et donc ils attendaient la dernière minute.
On les comprend.
Et alors ça ressemblait à l'extrême-onction, finalement. Mais alors il y a un autre rite qui peut penser, qui fait penser à la fin de vie, c'est l'Andoura. C'est ce jeûne. Alors, c'est très, très difficile à interpréter. J'ai un ami tchèque qui est un professeur d'université et qui est en train de travailler. Mais pour le moment, il a donné, je l'ai entendu, que deux fois en conférence sur l'Andoura. Il pense que c'était peut-être un peu liturgique. Mais sinon, les cathares à Montségur ne se sont pas suicidés. Ils auraient pu se jeter dans le vide. Oui. C'était facile, il y avait des vides partout. Ils ont attendu d'être pris par l'Inquisition, d'être interrogés et plusieurs semaines après, être brûlés. Alors qu'ils auraient pu se jeter dans le vide, comme les Juifs à Masada.
Ils n'ont pas renié leur foi.
Voilà. Mais non, mais on aurait pu imaginer, mais on ne leur en voudrait pas de se jeter dans le vide. Par contre, dans les prisons de l'Inquisition, on disait, il y a tel bonhomme, il s'est mis en Andoura. Et l'Andoura, c'était un peu un jeûne, donc il renonçait complètement à la nourriture et il mourait d'inanition.
Ah, une grève de la faim.
Voilà. C'est quand même assez bizarre parce que c'est à la fois presque, c'est très proche du suicide, mais pas tout à fait, quoi. Puisqu'ils ne se sont pas.
Un renoncement à la vie. Le suicide, c'est en principe, pour le médecin, c'est brutal.
Oui.
C'est-à-dire qu'on se défenestre, on prend des drogues, on se tire une balle à la tête, on s'empoisonne, etc. Le renoncement à la vie, on a un terme entre nous, c'est il y a ce qu'on appelle un glissement. Oui. Alors, chez les personnes âgées, on voit ce glissement. C'est-à-dire qu'ils décrochent, c'est-à-dire que plus rien les intéresse, ils se laissent mourir. Mais dans des pathologies que l'on qualifie de psychiatriques, mais qui peuvent être des pathologies spirituelles, parce que personne ne parle des pathologies spirituelles, mais c'est très très important. On voit ce glissement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par le bout de la vie, qui se laissent.
Oui.
Bon, et ça, c'est n'importe quel âge, et ce n'est pas forcément dans un milieu hospitalier ou médicalisé. Donc
les cathares avaient un peu ça avec l'Andoura.
L'Andoura.
Mais alors, c'était compensé par beaucoup de prières, les personnes, etc. Mais c'est, de toute façon, le bonhomme cathare, c'était quelqu'un qui n'était pas très gros, puisqu'ils avaient, vis-à-vis ils reprochaient aux catholiques de ne faire qu'un jeûne. Alors, ils en faisaient trois. Trois par an. Et ils respectaient les vœux, etc. Donc, ils n'étaient pas très, très gros, quoi.
Alors, peux-tu nous éclairer sur les différences entre consolamentum et imposition des mains dans le protestantisme, l'imposition des mains qui a lieu pour l'ordination pastorale et que tu as reçue?
Oui, alors, il y a plus de différence entre le protestantisme d'aujourd'hui et le protestantisme de Calvin qu'entre le protestantisme de Calvin et peut-être le catharisme. J'ai signalé dans un de mes livres que Calvin cite l'imposition des mains dans l'Institution de la religion chrétienne, dans l'édition de 1560, et il décrit cette imposition des mains un peu. Alors il dit, mais on pourrait imaginer que c'est un sacrement. Et en fait, je crois qu'il est, il, pour lui, il préfère finalement le sacrement de l'imposition des mains, une sorte de consécration de ceux qui vont annoncer la parole. Et ça ressemble un peu à un geste donc, d'imposition des mains, mais en même temps, un peu, ça ressemble au consolamentum
Qatar. Oui, c'est pour ça. Enfin, moi, j'ai toujours été frappé par ça.
Oui.
Alors, je n'ai jamais assisté.
Hein,
de ce que je regrette, mais j'aimerais assister.
Alors, à mon époque, bon, j'ai reçu l'imposition des mains, j'ai commencé à être pasteur en 1980, donc c'est quand même il y a assez longtemps, mais finalement, la liturgie...
Tu es un jeune pasteur.
Oui, en fait. Mais en fait, le protestantisme de l'époque était assez bricolé, on sortait de l'ambiance de mai 68, etc. Oui. Et en fait, c'était une liturgie moderne, on voulait faire moderne, donc... ça manquait de solennité, mais je crois qu'à l'époque de Calvin, l'époque ancienne, peut-être qu'aujourd'hui on le retrouve, ça se discute, ça ressemblait un peu au consolament, effectivement.
Ouais. Et alors, je vais pousser un peu plus loin, mais ça c'est le côté médical qui revient, l'intrusion médicale, comme le dernier patient me disait, vous êtes intrusif, je dis mais c'est mon métier d'être intrusif. Peux-tu nous dire ce que tu as ressenti lors de ton... une ordination pastorale. D'abord, ordination pastorale, c'est le bon terme ?
Oui, mais ça, dans le protestantisme...
C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'ai cherché.
Oui, mais dans le protestantisme, à mon époque, là, en 1980, c'était, on laissait le terme ordination aux luthériens. C'était oui. trop catholicisant. Et aujourd'hui, on l'a repris. Puis de toute façon, même, il y a eu union entre luthériens et réformés. On l'a repris, mais donc on disait reconnaissance de ministère, etc. Et en fait, moi, le président de région qui m'a imposé les mains à cette époque, il a dit « on ne va pas faire du chichi ». Donc c'était un peu trop décontracté. Et même ma femme faisait un travail, elle avait une session à Paris, elle n'a pas pu assister au culte où j'ai reçu, et ni mes parents à l'époque. Et en fait, donc je ne l'ai pas ressenti de façon très extraordinaire. Pour moi, c'était un peu du bricolage protestant. Ça ne ressemble pas vraiment à quelque chose qui est de l'ordre du sacrement. D'ailleurs, ce n'est officiellement pas un sacrement. Calvin voulait que ce soit un sacrement et ça, les synodes ne l'ont pas suivi.
Mais ton vécu, est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier ?
Non. Enfin, moi, je l'ai ressenti, oui, quand j'ai accepté la vocation pastorale.
Oui, une responsabilité.
Oui.
Oui, d'accord.
Et ce qui a fait, qui a ressemblé pour moi à une consécration, c'est que je suis allé pour la première fois au musée du désert et j'ai pris la robe pastorale et ma grand-mère devait y assister. Et puis elle a eu un malaise le matin, elle n'a pas pu venir. Mais enfin, je pensais à elle en défilant avec
elle
les autres pasteurs.
Elle était de toute façon avec toi.
Avec la robe pastorale. Pour elle, c'est ce qui marquait le protestantisme.
Très bien. Ben, il nous reste à infiniment te remercier, monsieur le pasteur Jas, à te remercier,
merci
Michel,
à vous.
Pour ta présence et ta participation à Votre Santé, un trésor, et ton témoignage si précieux pour et dans l'esprit. Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui, les livres de Michel Jas, et cette étude, Les Cathares à Montpellier, Cathares et protestants, famille rebelle et histoire du Midi, Uzès et le Languedoc des Cathares, Le Saint, le Pauvre et l'Hérétique et ses critiques sur François d'Assise, Valdès et Nicétas, Brest-Cathare. C'est le livre que tu as écrit, que je préfère, car tu me l'as dédicacé en 2001, après un repas que nous avions partagé avec ton épouse. Et je me permets de vous lire la dédicace. Michel Jaspin a donné l'autorisation, bien évidemment. À Jacques Jaume, les Cathares n'avaient pas de chair comme... plus tard les protestants et les catholiques, mais une table ronde avec une nappe, d'après le rituel occitan, pour la liturgie du consolamentum, amitié fraternelle, Michel Jas. Cela nous prouve bien que l'espace et le temps n'existent pas en Christ. Merci encore à toi, Michel.
Merci.
Je me permets de vous rappeler le voyage en pays Qatar des établissements Durand au 04 66 56 75 55. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un trésor sur Radio Alliance Plus 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.